Bonjour, vous êtes sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans et c'est Clap. Clap, l'émission hebdomadaire consacrée à l'actualité cinématographique des écrans Manceaux avec autour des micros Pierre Barry.
Bonjour.
Bonjour Pierre et Michel Lafond. Cette semaine, 7 nouveautés. Novembre, Ticket to Paradise, Tori et Lokita, Un beau matin, L'origine du mal, Une femme de notre temps. Dragon Ball Super, super-héros, voilà, c'est l'affiche de Clap cette semaine. Et pour commencer notre programmation musicale, on va écouter un titre de David Bowie, Sorrow, et ce Sorrow, on l'entend au tout début du film Novembre, c'est la seule chanson que l'on entend dans le film Novembre. On suit de dos Anaïs de Moustier sur son scooter. Voilà, et donc c'est sur Radio Alpa, 107.3 FM Le Mans. Sorrow, David Bowie. David Bowie, Sorrow, un titre que l'on entend au tout début du film Novembre. Eh bien justement, c'est de Novembre dont nous allons parler tout de suite. Le film proposé au Pathé Quinconce, au Méga CGR et au Colisée. C'est un film de Cédric Jimenez, réalisateur, scénariste et producteur né en 1976. Il a commencé dans le documentaire. Et puis en 2011, un premier long-métrage, aux yeux de tous, avec Mélanie Douté et Olivier Barthélémy. C'était pas mal d'ailleurs comme idée, aux yeux de tous. 2014, La French, Jean Dujardin, Gilles Lelouch et Benoît Magimel. Excellent film. En 2017, HHHH, c'est pas un film sur le cannabis, c'était un film au contraire sur... Himmler, donc ça n'a rien à voir, avec Jason Clarke et Rosamund Pike, et en 2020, Back North, avec Gilles Lelouch, François Civil et Karim Leclou, qui avaient fait beaucoup
très
parler
bon
et
film,
qui avaient très bien marché,
très bon.
Mais qui avaient suscité la polémique. Un film de Cédric Jiménez, novembre 1h47, le synopsis est une plongée au cœur de l'antiterrorisme pendant les 5 jours d'enquête qui ont suivi les attentats du 13 novembre. J'avais parié que les irréductibles n'aimeraient pas. Ils n'ont pas aimé, pas trop. Et donc, j'en étais quasiment sûr. Mais par contre, eh bien, Michael Mélinard dans L'Humanité a dit que c'était un thriller captivant. Eric Neuhoff dans Le Figaro, Cédric Jiménez est le plus américain de nos réalisateurs. Chez lui, l'énergie n'est pas un mot appris dans les livres. Son modèle se trouve peut-être chez Catherine Bigelow de Zero Dark Thirty. Oui, c'est vrai que c'était pas mal ça non plus. Barbara Théâtre, Le Journal du Dimanche, avec son efficacité déjà prouvée dans l'action, Back North. Cédric Jiménez nous embarque dans une course contre la montre, haletante et sans fioriture. Sans jamais montrer les attentats, il porte un regard quasi clinique sur le combat de l'ombre des enquêteurs qui tentent, entre réunions avec les politiques et fausses pistes sur le terrain, d'empêcher une nouvelle action des terroristes. Jean-Luc Verhoeven dans Le Point, porté par un bon casting, avec un Jean Dujardin toujours aussi solide et les formidables Anaïs de Moustier et Lina Koudry, Cédric Jiménez réalise un thriller palpitant, carré et immersif sous la traque des terroristes du 13 novembre par les policiers de l'antiterrorisme. François Léger dans West France parle d'un thriller d'action réussi. Lélo Jimmy Battista dans Libération, le film de Cédric Jiménez sur la traque du coordinateur des attentats de 2015, préfère parfois l'efficacité à la complexité, mais a su trouver le ton juste. Sylvestre Picard en première, Novembre est effectivement conçu de son point de vue de réalisateur comme un film d'action pur, fonctionnant sur l'enchaînement des événements, vu uniquement du côté policier, le plus brut possible. Et le résultat se révèle d'une efficacité redoutable comme un Zero Dark Thirty, dépouillé de sa dimension tragique. Simon Rieu dans Écran large, tendu et finement observateur durant sa première moitié, Novembre se désagrège au fur et à mesure qu'il échoue à développer un point de vue pertinent ou à traiter convenablement tous ses personnages. Télé 7 jours, dans Télé 7 jours, Julien Barcillon, je suis un peu surpris qu'il n'ait pas aimé, mais bon, c'est comme ça. Là, bien que porté par un casting VIP, Novembre se contente d'illustrer ce que l'on sait déjà, à grand renfort d'images de policiers en alerte. Et donc, Les Inrecuptibles, Théo Ribeton, Novembre est sans grand défaut, mais assez absent à lui-même, presque sans substance, volatile, un art du polar de bureau et de téléphone fixe, une enfilade de baies vitrées, de paperasses et d'écran, d'où émerge un climat, un arrière-fond, mais très peu de récits et presque aucun personnage. Mais quand la mauvaise foi atteint ces niveaux-là, c'est formidable. Voilà, donc Novembre, un film de Cédric Jiménez, impressionnant, moi c'est le mot qui me vient à l'esprit à l'issue de la projection de Novembre. C'est un film qui revient à la façon d'un thriller pur et dur, de façon hyper documentée sur les attentats de novembre 2015 et surtout sur les 5 jours de chaos qui les ont suivis, consacrés ces 5 jours à la traque des terroristes survivants par tous les services de police. Tous les services de police, et plus particulièrement la brigade antiterroriste, ses chefs et ses agents de terrain. Voilà. Alors, grâce à une mise en scène hyper réaliste et ultra dynamique, on peut parler d'un montage absolument impressionnant à propos de ce film, on a un film qui suit l'enquête avec une précision, donc, je répète, absolue, et on perçoit la tension extrême qui prévaut pour éviter la probabilité d'ailleurs, de nouveaux attentats tant que le reste du groupe terroriste est dans la nature. Le film, c'est une sorte de course contre la montre, je reprends l'expression que j'ai trouvée dans une des critiques, c'est passionnant de bout en bout, sans temps mort. Ça nous plonge dans la réalité à laquelle sont confrontés les policiers avec les filatures, les écoutes, le pistage de sites islamistes sur Internet, les interrogatoires, mais aussi les doutes, les erreurs de procédure de ces hommes et femmes mobilisés sans repos ni répit pour atteindre leur objectif. Ici, les acteurs sont tous parfaits, ils ne font pas de numéros, ils sont totalement au service de leur personnage. Cédric Jiménez ne fait pas dans le spectaculaire, il n'y a pas de poursuite, pas de baston, il fait juste le choix de ne montrer ni les attentats ni les victimes, pas de fioritures, pas de digressions. Seul compte le réalisme des situations et la reconstitution la plus juste possible, la plus juste des faits. À ce titre, l'assaut contre la planque d'Abaoud est quasi documentaire dans l'évocation du chaos qu'elle a représenté. C'est une véritable plongée au sein d'un service de police. Moi, j'avais pas vu quelque chose aussi précis depuis L627 de Tavernier. Bref, c'est un très grand film dont on peut espérer quand même un grand succès populaire en termes de fréquentation, tant je trouve ce film exceptionnel d'intensité, de maîtrise dans sa mise en scène avec une tension allant crescendo. Je ne sais pas si tu as mon avis, Pierre.
Moi, j'ai trouvé aussi ce film très intéressant, à plus d'un titre, car l'on suit là l'enquête policière durant 5 jours après les attentats de novembre 2015. Il y a aussi beaucoup de suspense, d'angoisse, côté spectateur. Les principaux acteurs sont irréprochables dans la justesse de ce doc-fiction, cette reconstitution. Jean Dujardin est là, selon moi du moins, dans son meilleur rôle. Sandrine Kiberlin dans un rôle inhabituel d'autoritarisme au sein de la police. Et Anaïs de Moustier, une actrice que j'adore, entre parenthèses, est tout simplement merveilleuse. Un film à voir absolument après Revoir Paris, qui était lui côté victime.
Exactement, et on peut le revoir au Méga CGR, au Colisée, au Pathé Quinconce, donc aucune excuse pour ne pas aller voir Novembre, qui sera pour moi un des films de l'année. Mmh. Voilà. Ticket to Paradise, par contre, ça ne sera pas un des films de l'année.
Non.
Ça dure 1h44. C'est de Hall Parker. Hall Parker, réalisateur, scénariste, producteur britannique. Il a réalisé en 2006 Imagine Me and You avec Piper Perabo et Lena Headey. 2012, pour Netflix, Now is Good, avec Dakota Fanning. 2018, Mamma Mia, Here We Go Again, donc la suite de Mamma Mia, avec Lily James, Amanda Seyfried, Meryl Streep, et puis le scénariste d'Indian Palace 1 et 2. Voilà, donc ce film est proposé au Méga CGR, au Pathé Quinconce. Dans les deux cas, il y a possibilité de le voir en VO. Un couple séparé est réuni pour tenter d'empêcher leur fille de commettre la même erreur que jadis, céder au coup de foudre. Là, la revue de presse est très 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 partagée, vous allez le voir, c'est le moins qu'on puisse dire. 20 minutes, Caroline Vier, le sourire de la star, bon là on parle de Julia Roberts, est un ingrédient majeur du film, où sa complicité avec Georges Clooney fait des étincelles lors d'échanges explosifs. Camille Nevers, Libération, le film d'Hall Parker, délicieuse comédie de remariage tendance screwball, est aussi rigoureusement drôle que ses duettistes virtuoses Julia Roberts et Georges Clooney. François Forestier dans l'Obs, sur le modèle Cary Grant, Katharine Hepburn, le couple Clooney-Roberts est très drôle, avec répliques barbelées, sous-entendus méchants, peaux de banane diverses, puis la suite s'épuise, et malgré la beauté des lieux et le piquant des situations, le soufflet retombe. Le Figaro, le charme opère par moments, et le film s'avère plaisant, mais sans surprise. Renan Crowe dans Cinématiseur, une comédie de remariage sous le soleil de Bali, pas très fine, mais sauvée par le charme mélancolique du duo Roberts-Clooney. Le Monde. Véronique Coappé, malgré les faiblesses du scénario et les facilités dont il abuse parfois, malgré le clinquant et les effets ampoulés de la mise en scène, le charme opère et n'a pas opéré sur West France, une comédie romantique qui ne se hisse pas à la hauteur de ses acteurs. Il n'a pas opéré sur Première, Sylvestre Picard. Le problème est que le film, bien trop long, esquive en fin de compte son sujet de comédie réjouissant pour passer en mode romance sérieuse sur les choix de vie et leurs lourdes conséquences. Et il n'a pas non plus séduit Adrien Gombeau dans Les Échos. Mal écrit, tourné dans les couleurs d'écran de veille, Ticket to Paradise a tout du nouveau film lambda, si ce n'est son casting luxueux. Voilà, le film est proposé au Méga CGR, au Pathé Quinconce, et on peut le voir en VO. Donc, Ticket to Paradise, c'est un mélange de comédie romantique et de comédie de remariage. C'est ultra prévisible, mais bon, c'est pas désagréable quand on sait à quoi s'attendre. Évidemment, ça tient essentiellement grâce au couple Clooney-Roberts, plein de charme, et au paysage paradisiaque de Bali. Là, le syndicat d'initiative ne peut pas se plaindre. Il y a une bonne promotion pour l'île de Bali, dans laquelle s'insère cette histoire. Donc, c'est quoi l'histoire ? Séparés depuis 20 ans, après 5 ans de mariage, David et Georgia s'entendent comme chien et chat, mais quand leur grande fille leur annonce son intention de se marier avec le beau balinais qu'elle a rencontré au cours de son voyage, qu'elle s'est offert pour fêter son diplôme d'avocat, tous deux se liguent pour lui éviter de commettre ce qu'ils considèrent comme une énorme bêtise. Évidemment, rien ne va se passer comme prévu au cœur du séjour. On ne peut pas dire que le film propose beaucoup de surprises, tant toutes les situations ont déjà été vues et revues, mais bon, ça fonctionne gentiment, à coup de vacherie échangée entre David et Georgia, donc entre Clooney et Roberts. Et puis, ce duo, ils ont quand même de beaux restes, hein, ils sont quand même assez craquants. Et à l'évidence, ils sont très complices. Bon, ça se voit à l'écran. Donc, très complice. Ils font en plus preuve d'un type d'autodérision, d'ailleurs, j'ai trouvé un petit peu quand même. Bon, donc gaffe et punchline s'enchaînent, mais aussi leçon de vie un peu gnangnan. Il n'y a pas trop de baisse de rythme, malgré tout, donc ça fonctionne un minimum, mais on voit tout venir à l'avance, et il ne faut pas trop attendre un tel film et savoir ce qu'on va voir et pourquoi on va le voir. Donc c'est plaisant, mais sans plus.
Ouais, bah, je suis d'accord. L'affiche est alléchante, c'est vrai, avec deux grosses pointures du cinéma hollywoodien. Je veux parler de George Clooney et de Julia Roberts, qui va fêter ses 55 ans dans quelques jours, d'ailleurs.
Bien conservé.
Ces deux acteurs sont d'ailleurs à la hauteur, il faut le dire, ce qui n'est pas le cas du film et du scénario. Dès le début, en effet, on devine aisément comment cela va finir, donc pas de suspense. L'humour, c'est une comédie, l'humour donc n'est pas bon, à mon goût. Seule la bande originale m'a sorti de ma torpeur, beaucoup de bonnes chansons dans ce film. En conclusion, ce n'est pas le film que je vais vous recommander cette semaine, malgré les cartes postales de Bali, il est vrai qu'ils sont pas mal. Indonésie, hein, je crois.
Oui. Tu l'as vu en VF ?
En VF, oui.
Ah oui, ça ne doit pas arranger non plus les choses. Moi, je l'ai vu en VO, donc bon, voilà. Ticket to Paradise, Pathé Quinconce, Méga CGR, Tori et Lokita, seulement au cinéaste, c'est un peu logique, un film des frères d'Ardenne, au cinéaste, avec, ma foi, deux séances par jour. Les frères d'Ardenne, réalisateurs, scénaristes et producteurs belges, ils ont commencé par de nombreux courts-métrages et documentaires, et puis ensuite, en 1986, un film avec Bruno Kremer, Falsa. 92, Je pense à vous, avec Robert Renucci et Fabienne Bab. 95, La promesse, avec Olivier Gourmet et Jérémy Régnier. 99, Rosetta, avec Émilie Dequesne et Olivier Gourmet. Je me demande si ce film n'a pas obtenu la Palme d'Or, Rosetta. Je crois bien que si. Hein. 2001, Le Fils, avec Olivier Gourmet. 2004, L'Enfant, avec Jérémy Régnier et Déborah François. 2008, Le Silence de Lorna, avec Jérémy Régnier. 2011, Le Gamin au vélo, avec Cécile de France et Jérémy Régnier. Vous voyez qu'il est fidèle à Jérémy Régnier. 2014, Deux jours, une nuit, Marion Cotillard, Fabrizio Ronzione. 2016, La fille inconnue, avec Jérémy Régnier, Adèle Haenel. Et 2019, Le jeune Ahmed. Voilà pour la filmographie des frères d'Ardenne. Tous ces films, vous avez pu les voir à l'époque au cinéaste, car les cinéastes sont fidèles aux frères d'Ardenne, qui pour le film Tori et Lokita ont obtenu un grand prix spécial 75e anniversaire du Festival de Cannes. 1h28 pour ce film. Aujourd'hui en Belgique, un jeune garçon et une adolescente venus seuls d'Afrique opposent leur invincible amitié aux difficiles conditions de leur exil. Allez, la rue de presse, la rédaction du Parisien. Une fois de plus, les Dardennes touchent en plein cœur avec ce long métrage d'une actualité brûlante. Adrien Gombeau dans Les Échos, Luc et Jean-Pierre Dardenne retracent le parcours de deux jeunes migrants en Belgique confrontés au réseau de l'économie souterraine. Un film âpre et émouvant qui s'impose comme le sommet de leur filmographie. Michael Mélinard, L'Humanité, une fois encore, Luc et Jean-Pierre Dardenne donnent des visages à une problématique sociale, celle des mineurs étrangers non accompagnés, opposant toujours la singularité et la complexité au discours simpliste. Céline Roudin dans La Croix, construit comme un thriller, ce film sombre mais profondément humain est aussi un cri de révolte contre le sort fait à ses enfants en Europe. Le Journal du Dimanche, le cinéma ultra réaliste des Dardenne se fait encore plus direct pour toucher droit au cœur en à peine 1h30. Pas de misérabilisme appuyé, pas de fioriture narrative visant à créer du rebondissement, pas d'effet visuel côté mise en scène pour faire monter la pression, juste la force de l'amitié en guise de bouclier et l'absurdité d'une administration conduisant à un drame que la simple générosité aurait pu éviter. Laura Tulier, Libération, le plus beau du film, se trouve sans surprise dans le talent des Dardenne pour matérialiser ce lien mystérieux. On ne saura jamais comment les enfants se sont rencontrés et surpuissant, à la vie, à la mort, entre ces faux frères et sœurs, inventeurs d'une relation dont ils portent le secret et qui est à ce titre imperméable aux assauts de la société. Gilles Kerdreux, dans Ouest France, déclare que c'est déprimant, mais tellement juste. Thomas Borès dans Première, les frères d'Ardenne croient aux vertus d'un art capable de sublimer, sans les dénaturer, des êtres disqualifiés par une société qui préfère oublier qu'ils existent. Cela mérite en effet tous les prix du monde. Xavier Lerpeur dans L'Obs, à Cannes, il fut reproché aux frères d'Ardenne de ne pas se renouveler et de manquer de subtilité. Il est vrai que le carton final appuie le message, mais pour le reste, leur fougue et leur fibre sociale sont intactes. Et enfin, Le Figaro, Étienne Sorin, une chape de plomb trop mécanique et prévisible pour émouvoir, le spectateur en sort accablé. Eh bien, je n'en suis pas sorti accablé, car je ne suis pas allé le voir. Tori et Lokita, proposé au cinéaste, 2 séances par jour, le film a obtenu un prix du 75e anniversaire du Festival de Cannes. Voilà. Pause musicale. À l'issue du film L'Origine du Mal, sur le générique, on entend cette chanson, L'Origine du Mal, et c'est Fishback et Pierre Lapointe qui l'interprètent sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans.
Je serai toi.
Tu seras moi.
Dans une jolie confusion.
Toi,
moi,
tous les deux.
Nous serons
Dieu et
diable en fusion.
D'où vient le bien?
D'où vient le mal?
L'humain est étrange animal.
Toi,
moi,
tous les deux.
Nous serons
de mortels
en permission.
Et si le destin nous étrive, sans doute et sans une question, nous partirons à la dérive. Sans jamais craindre, nous mourrons.
Et si les regrets nous reviennent, nous en ferons une chanson, comme une gentille rengaine, comme un rassurant poison. Dans nos yeux y'a des sourires, de beaux et joyeux souvenirs, des anniversaires de tristesse, des aveux qui nous blessent. Dans nos yeux y'a des regrets, des larmes de 14 juillet, des fleurs et des oiseaux qui chantent, les mots qui nous hantent. Toi,
sera moi
comme un mariage de raison.
Toi,
moi,
toutes les deux,
nous serons
un mensonge
de passion.
D'où vient le bien?
D'où vient le mal?
Tout ça au fond nous est égal.
Toi,
moi,
tous les deux,
nous serons
la honte
qu'on porte au fond.
Et si le destin nous achève, sans doute et sans une question, comme l'ont fait Adam et Ève, dans la pomme nous croquerons.
Et si les regrets nous avalent, nous chanterons cette chanson, d'une voix pure comme cristal, la vie nous la narguerons.
Dans nos yeux y'a des sourires, de beaux et joyeux souvenirs, des anniversaires de tristesse, des aveux qui nous blessent. Dans nos yeux y'a des regrets, des larmes de 14 juillet, des fleurs et des oiseaux qui chantent, les mots qui nous hantent.
Fishback et Pierre Lapointe, la chanson du générique de fin du film L'Origine du Mal. Et L'Origine du Mal, on en parle dans 5 minutes. On va parler maintenant d'Un beau matin. Un beau matin, c'est un film de Jean-Paul Sivérac proposé par les cinéastes. Les cinéastes proposent Un beau matin avec... Qu'est-ce que j'ai dit, Un beau matin? C'est pas un film de Jean-Paul Sivérac. Un beau matin, c'est un film de Mia Hansen-Løv. Je dis n'importe quoi. Mia Hansen-Løv, réalisatrice, actrice et scénariste, née en 81. Mia Hansen-Løv a réalisé des courts-métrages et puis en 2007, un premier long, Tout est pardonné avec Paul Blin, 2009, Le père de mes enfants, avec Louis Daud de Lanquesin, un acteur que j'aime beaucoup, et avec sa fille aussi, Alice de Lanquesin. 2010, Un amour de jeunesse avec Lola Creton. 2014, Eden avec Pauline Étienne, Félix de Givray. C'était sur les tout débuts de la musique électro en France, par exemple. Voilà, c'était très intéressant. 2016, L'Avenir avec Isabelle Huppert, André Marcon. 2018, Maya avec Roman Kolenka. Roman Kolenka. 2021, Bergman Island avec Vicky Krieps, Tim Roth et Mia Wasikowska. Un beau matin, je le répète, est proposé essentiellement et uniquement aux cinéastes avec 2 séances par jour. Un beau matin. Donc, 1h52, Sandra, jeune mère qui élève seule sa fille, rend souvent visite à son père malade, Georges. Alors qu'elle s'engage avec sa famille dans un parcours du combattant pour le faire soigner, Sandra fait la rencontre de Clément, un ami perdu de vue depuis longtemps. 20 minutes, Caroline Vier, Léa Seydoux et Pascal Grégory sont impeccables dans les rôles principaux d'un film qui n'est jamais plombant. Françoise Delbecq dans Elle, l'un des plus beaux films de Mia Hansen-Love. Pour Sophie Joubert, L'humanité, un film lumineux. Céline Rouden dans La Croix, Mia Hansen-Love capte avec simplicité et délicatesse un moment de la vie dans l'un de ses plus beaux films. Alexis Campion dans Le Journal du Dimanche, de l'infinie tristesse à la plus éclatante lumière, il n'y a qu'un pas. Mia Hansen-Love capte ce mouvement mystérieux avec une délicatesse bouleversante et une troupe d'acteurs magnifiques. Laura Tullier dans Libération, c'est le charme poignant des plus beaux films de Mia Hansen-Love qui opère ici, faisant de son héroïne une éternelle adolescente, sac sur le dos et larmes aux yeux, pleine de chagrin mais gardant espoir. Olivier de Brunan, Marianne, comme à ses plus belles heures, la cinéaste avec une pudeur farouche qui impose ses lois au cœur de chaque scène, filme son héroïne, son père et Clément en prohibant le pathos et en privilégiant la suggestion et le chuchotement, un choix qui donne tout son prix à cette fiction précieuse. Paris Match, alors Paris Match, il y a un pour et un contre, le pour c'est Yannick Joly. Ce qui impressionne et nous touche tant dans Un beau matin, c'est la finesse et l'intelligence de l'écriture, la dentelle des sentiments, la qualité et la précision aussi de la direction d'acteur. Cahier du cinéma, Jean-Marie Samocchi. Hansen-Love approche la mort de façon oblique mais sûre par une succession de fragilités irréversibles que la lumière des saisons et la pudeur de la litote protègent de la morbidité à rebours de l'obscurité du caveau. Mathieu Macheret dans Le Monde, le sujet a priori écrasant, appelé une gravité de traitement à laquelle Mia Hansen-Love ne cède jamais, livrant au contraire un film solaire, baignant dans la splendide photographie de Denis Lenoir, enlevé, limpide, ne faisant droit à la tristesse que discrètement, en la laissant refluer quand on l'attend le moins. Le contre de Paris Match, c'est Fabrice Leclerc. Une petite musique talentueusement mise en image, mais qui manque parfois de chair et d'enjeu, pour embarquer le spectateur. Et enfin, Le Figaro, Irine Neuhoff. À son habitude, la réalisatrice dont la sincérité n'est pas en cause, signe un film atone, plat, transparent, rien de nouveau. Ah ben oui, y a des gens qui n'aiment pas Mia Hansen-Love, visiblement. C'est le cas d'Irine Neuhoff. Un beau matin, ben, ça a quand même un gros air de déjà-vu, ce film. Hein. C'est un portrait chronique de la vie d'une quadragénaire, Sandra. Alors Sandra, elle est traductrice, mère célibataire d'une petite fille et vit à Paris. Elle accompagne son père atteint d'une maladie neurodégénérative, j'aurais dû une maladie grave, mais voilà. Une maladie neurodégénérative et qui tombe de plus en plus dans la confusion mentale. Je parle du père, bien entendu. Et en même temps, eh bien, elle retrouve par hasard un ami d'enfance avec qui elle entame une histoire d'amour compliquée. Compliquée, pourquoi ? Parce que ce dernier est un homme marié. Voilà, donc le film suit Sandra, confrontée simultanément à des sentiments bien différents, voire opposés. L'amour maternel pour sa fille, la passion amoureuse avec Clément et l'accompagnement dans les difficultés de la fin de vie de son père. Le problème du film, outre sa longueur, ça fait 1h52, hein, et ben c'est qu'il est amené à répéter souvent les mêmes situations. Voilà, on retrouve plusieurs fois la même situation. Bon, et puis bah, y a aussi la faiblesse des enjeux. Alors c'est un film intimiste, c'est sans doute en grande partie autobiographique. Alors certes, on peut être sensible aux différentes situations que vit Sandra, mais de la trouver cela passionnant, bah, ça n'a pas été mon cas en tous les cas. Donc je dirais qu'il y a une certaine banalité qui émane de l'ensemble. Alors c'est sûr, beaucoup de gens sont amenés à vivre ces situations et donc pourront peut-être à la fois s'identifier à la souffrance ressenti par cette fille qui voit son père s'effacer, s'affaiblir inexorablement, ne plus être cet intellectuel brillant qu'il a sans doute été. Et puis, on peut parler de justesse dans l'émotion, mais l'histoire d'amour vécue, elle est d'une banalité absolue, même si ceux qui éprouvent cette histoire d'amour dans le film la vivent avec passion. Donc c'est quand même largement un film assez banal, mais sauvé par ses interprètes, Léa Seydoux, Melville Poupeau, Pascal Grégory, Nicole Garcia. Donc, une opinion un petit peu mitigée en définitive. Peut-être que le film aurait été un peu plus court, peut-être que j'aurais été plus enthousiaste, mais je trouve qu'on a plusieurs fois la même situation qui se répète. Bon, enfin, c'est intéressant malgré tout. Ça montre bien les difficultés à trouver une structure pour un vieux monsieur. Et à Paris, comme en province, les EHPAD sont surchargés, ou alors on peut craindre qu'on soit maltraité dans ses EHPAD, etc. Bon, enfin bref, cet aspect-là est un aspect qui est tout à fait dans l'actualité et plus intéressant que l'histoire d'amour qui, elle, est assez convenue. Bon, voilà. Bien. Un beau matin, c'est au cinéaste. Voilà. Tout comme d'ailleurs L'Origine du Mal, mais L'Origine du Mal, on peut aussi le voir au Pâté Quinconce. L'Origine du Mal, c'est un film de Sébastien Marnier. Sébastien Marnier, réalisateur scénariste, à qui on doit en 2015 Irréprochable avec Marina Foïs et Jérémy Elkaï. Et en 2018, lors de la sortie avec Laurent Lafitte et Emmanuel Berco. L'Origine du Mal, ça dure 2h02. Et donc, je répète, c'est proposé à la fois aux cinéastes, avec deux séances par jour, et au Pâté Quinconce. Le synopsis, dans une luxueuse villa en bord de mer, une jeune femme modeste retrouve une étrange famille, un père inconnu et très riche, son épouse fantasque, sa fille, une femme d'affaires ambitieuse, une ado rebelle, ainsi qu'une inquiétante servante. Voilà donc pour le synopsis de ce film de 2h05. Caroline Vier en pense plutôt du bien. Dans 20 minutes, ce suspense bien mené est un régal pour les nombreuses surprises qu'il réserve. Renan Crowe dans Cinématiseur, Sébastien Marnier livre un thriller en forme de jeu de massacre, baroque, méchant et déroutant. Le mariage réussi et réjouissant entre Chabrol et De Palma. La rédaction d'écran large, le film pourrait très bien céder au cynisme gratuit, surtout sur 2 heures de temps, mais c'est sans compter d'une part sur la brochette de comédiennes et comédiens, toutes et tous utilisées à bon escient, surtout Laure Calamy et Doria Tillier, ainsi que sur la mise en scène du cinéaste. Le Parisien aime bien aussi. Dans ce film aux accents chabroliens, oui, la référence à Chabrol revient souvent sous la plume des critiques, emmené par des femmes, Jacques Weber qui joue le patriarche est le seul homme de la distribution, Laure Calamy est formidable de nuances et de mystères. Olivier de Bruyne, Les Échos, dans L'Origine du Mal, Sébastien Marnier dresse le portrait d'une femme à l'identité trouble, incarnée par Laure Calamy, avec ses protagonistes, tous plus détestables les uns que les autres. Le cinéaste concocte un film noir, acide, sur les liens du sang et la pas névrotique du gain. Julien Barcillon dans Télé 7 jours. Le prix de cette farce qui passe à la moulinette d'un humour abrasif, la famille et ses névroses toxiques, tient surtout à sa galerie de monstres ordinaires incarnés par une troupe inspirée. François Forestier dans l'Obs, dans cette parodie d'Hitchcock, Sébastien Marnier s'amuse à inventer des relations fielleuses et entasse des révélations jusqu'à l'issue finale, tragique. Mais trop c'est trop, on est dans l'exercice de style avec des acteurs qui s'amusent mais ont du mal à imposer leurs personnages, tous affreux pantins. Élodie Tamayo, Cahier du cinéma. Le film privilégiant le saugrenu à l'inquiétant ne parvient pas au degré d'intensité auquel il aspire. Les coups de théâtre répétés finissent par saper la vraisemblance psychologique sans affirmer un registre non naturaliste. Et Frédéric Foubert en première. L'Origine du Mal pourrait être le point de départ d'une saga de l'été du service public, mais que Sébastien Marnier entend repeindre couleur d'une satire chabrolienne. Voilà, alors j'ai vu, moi, L'Origine du Mal, et moi j'ai plutôt aimé ce thriller familial sur un thème qu'on ne peut pas vraiment dévoiler pour ne pas donner trop d'indications sur le film. Voilà, donc Stéphane, on va dire, c'est une jeune femme, trentenaire, d'origine modeste. Elle va rencontrer pour la première fois son père, un homme très riche qu'elle n'a pas connu et qui vit sur l'île de Porquerolles, isolé dans une somptueuse villa entourée de sa femme, de sa fille, sa petite-fille et une servante. Alors seulement, Stéphane ne dit pas vraiment la vérité sur qui elle est. Et elle va découvrir une famille où l'amour est loin de régner entre ses membres, loin, 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 et où l'appât du gain semble être le moteur de la vie de chacun des personnages, à l'exception quand même de la petite-fille, quand même, la petite-fille n'est pas intéressée par l'argent. Certes, c'est un peu long, Mais le scénario est habile, multiplie les rebondissements, et les rebondissements au gré des intérêts de chacun. Un casting exclusivement féminin à l'exception de Weber, composé de véritables mentes religieuses à l'assaut d'un homme loin d'être sympathique d'ailleurs pour sa part. L'auteur sait parfaitement mener sa barque en créant une atmosphère vénéneuse où la suspicion, le secret, le mensonge règne en maître entre les protagonistes, chacun ayant ses intérêts à défendre et pouvant nouer des alliances au gré des circonstances, des alliances particulièrement tordues. Il y a diverses manipulations aussi entre les différents personnages. Le film s'avance inexorablement vers sa fin tragique. C'est pas mal du tout, c'est juste un petit peu trop long. 2h05, je pense qu'on aurait pu faire aussi efficace en étant un petit peu plus court. Mais malgré tout, c'est un film que je recommande à voir au Pâté Quinconce et au cinéaste. Allez, petite pause musicale. Celle-ci va faire plaisir à Pierre. C'est son genre de musique préférée et c'est ses années préférées. C'est The Isley Brothers, This Old Heart of Mine, et c'est le titre qu'on entend sur le générique de fin du film
Ticket to Paradise.
Bon vieux temps de la Tamla Motown.
Ah oui,
on n'a jamais fait mieux, je pense.
Années 60, là. Hein.
Ah oui, c'est sûr. This Old Heart of Mine, The Isley Brothers, le titre qu'on entend sur le générique de fin de Ticket to Paradise. Voilà, alors on passe à une femme de notre temps, le film proposé par les cinéastes, exclusivement par les cinéastes, et une femme de notre temps a droit, en général, à 2 séances par jour, sauf aujourd'hui, si vous voulez le voir, c'est à 13h30, donc faut vous dépêcher. Alors, c'est un film de Jean-Paul Civérac, réalisateur scénariste français né en 64. Il a commencé par des courts-métrages, de nombreux courts-métrages. Il a continué d'ailleurs à en faire pendant toute sa carrière. Et puis en 96, Passage au Long avec Ni d'Ève ni d'Adam. 99, Les Solitaires. 2001, Le Doux Amour des Hommes. 2001 également, Fantôme. 2002, Toutes ces belles promesses avec Jeanne Balibar pour Amazon Prime. 2004, À travers la forêt. 2009, Des filles en l'air. 2014, Mon ami Victor Victoria 2017, les provinciales. Je dois dire que j'ai certainement dû voir des films de Jean-Paul Sivérac, mais je n'en ai gardé aucune mémoire. C'est pas très bon signe, ça. Donc, Jean-Paul Sivérac propose Une femme de notre temps, 1h36, avec Sophie Marceau. Juliane, commissaire de police à Paris. Je ne sais plus si on est commissaire de police, on devrait dire officier, non ? Je ne sais plus de police, parce qu'ils ont des grades comme dans l'armée, je crois.
Oui, mais il y a commissaire aussi.
Hein. Encore commissaire. Oui, oui. Juliane, commissaire de police à Paris, est une femme d'une grande intégrité morale, mais la découverte de la double vie de son mari va soudain la conduire à commettre des actes dont elle ne se serait jamais crue capable. Alors là, c'est très partagé, hein, c'est ou pour ou contre. Alors, Jean-Christophe Ferrari, dans la revue Positif du Comte, le film emprunte surtout la transformation de Juliane en Artemis ou Diane, chasseresse, transformation qui se déroule au cours d'une séquence aussi virtuose qu'osée, où, pour notre plus grande sidération et notre plus grand plaisir, le film atteint une part d'irrationalité irréductible, une dimension archaïque et mystique. Ouais. Olivia Cooper-Adjian, cahier du cinéma, les apparents détours du récit en renforcent la clarté. Lorsque Juliane dévide sa route vengeresse à la suite de la rencontre d'une femme battue implorant son aide, le film ne fait que s'arrimer plus solidement à son fil, l'histoire universelle d'une lutte entre la vérité et le mensonge. Étienne Sorin, Le Figaro, celle qui a longtemps été la personnalité préférée des Français, ne se donne pas forcément le beau rôle dans le costume d'une Amazone vengeresse, ben voilà, encore l'Amazone vengeresse, est tragique. Elle trouve assurément ici l'un des personnages les plus forts et troublants de sa carrière. Ben oui, peut-être, mais pas moi. Alors, ceux qui n'ont pas aimé, Corinne Renoux-Nativelle-Lacroix, la platitude des dialogues malgré leur rareté, le lyrisme appuyé de la mise en scène et l'omniprésence des violons constamment redondants avec ce que montre l'image, malaise, tension, violence, etc., achève d'épuiser le spectateur qui aura cherché en vain une épaisseur et un sens à cette intrigue trop ténue. L'Obs, mouvement hashtag MeToo mal digéré, péripéties invraisemblables, abus d'instruments à cordes, vision de notre âge, trahi par un homme, une femme se venge, Sophie Marceau, aux amonnés absents, participe de l'accablement. Baptiste Thion, Le Journal du Dimanche, Une femme de notre temps ressemble à un film de notre temps. Cela pourrait séduire si l'intrigue aux situations improbables n'était pas réduite à l'exploration intime événement psychologique dans laquelle il s'embourbe jusqu'au ridicule. Thierry Chen en première, Sivérac ne trouve jamais le bon ton pour raconter la descente aux enfers de cette femme intègre, métamorphosée en meurtrière vengeresse. Et oui, j'ai vu Une femme de notre temps et je ne peux pas dire que je suis emballé par le film. Juliane, donc, elle est commissaire de police, elle est intègre, oui, absolument. Et sa vue bascule quand elle découvre fortuitement que son mari la trompe. Alors évidemment, son monde s'écroule et elle n'est d'ailleurs pas encore au bout de ses déconvenues. Je vous en dis pas plus. Elle décide alors de se venger et va commettre une série d'actes peu en rapport avec sa vie d'avant au gré des circonstances qu'elle va traverser. Donc c'est un polar. Un polar qui devrait plaire à Sandrine Rousseau, hein, parce que les hommes, ils sont pour la plupart décrits comme des salauds, des lâches. Et d'ailleurs, ils le sont, dans le film, il n'y a pas de problème. Et les femmes, comme des victimes de leur turpitude, certaines étant cependant quand même plus ambiguës, car finalement, un petit peu complices de ces turpitudes. Bon, bref. Outre une musique ultra dramatique qui souligne les situations, et presque assourdissante, cette musique, on ne peut pas dire que tout ça soit entièrement crédible, tant certaines situations sont outrancièrement poussées. Sophie Marceau fait ce qu'elle peut, mais on n'affirmera pas que ce rôle marquera sa carrière. Moi, je ne suis pas d'accord avec un des critiques qui dit que c'est un des meilleurs de sa carrière. Loin de là. La mise en scène s'étire plus que de raison dans certaines scènes, leur faisant perdre en intensité. Dommage, parce qu'il y avait sans doute mieux à faire pour dénoncer les violences psychologiques ou physiques faites aux femmes, qui est quand même thème majeur du film. Donc, on ne parlera pas de ratage complet, mais certainement pas de réussite. Bon, peut-être les féministes y trouveront leur compte, et encore pas sûr. Voilà. Ça s'appelle Une femme de notre temps. C'est proposé par le cinéma Les Cinéastes. Oui. Dragon Ball super-héros. Alors, cette fois-ci, c'est un film d'animation d'1h39, de Tetsuro Kodama. Tetsuro Kodama, c'est un réalisateur japonais, vous en doutiez un petit peu. C'est son premier long-métrage, et vous pouvez le voir au Pathé Quinconce, au Méga CGR, au Colisée, je crois bien qu'on peut le voir partout en VO. Je jurerai pas, mais il me semble bien. Voilà, les avant-premières étaient en vue en tous les cas. 1h39. Alors, ce que je vais vous raconter, le synopsis, pour moi, c'est du chinois, de l'hébreu, enfin tout ce que vous voulez. Je n'y ai rien compris. L'armée du ruban rouge avait été détruite par Son Goku, mais des individus ont décidé de le faire renaître. Ils ont ainsi créé les cyborgs ultimes, Gamma 1 et Gamma 2. Autoproclamés les super-héros, ils lancent une attaque contre Piccolo et Son Gohan. Quel est le but de cette nouvelle organisation du Ruban Rouge? Face à ce danger qui se rapproche, il est temps pour les vrais héros de se réveiller. Voilà. Bon. Alors, quand même, il y a des critiques qui sont allées le voir et qui ont aimé. Le Figaro, somme toute, grâce à des méchants de service assez jubilatoires, le spectacle est assuré et de 12 à 30 ans, les fans de la saga Dragon Ball peuvent s'en donner à cœur joie. Le Parisien, au détour des images, on reconnaît des hommages appuyés à d'immenses dessinateurs du genre tels que Jack Kirby, Frank Miller ou Alex Ross. C'est peu banal dans un anime, un film d'animation, et cela participe à la réussite graphique de ce nouveau film. Bon, je ne suis pas allé voir Dragon Ball Super-Héros, mais il semblerait que ce soit des films qui séduisent le jeune public.
Oh oui,
friand de manga, il faut savoir que les mangas, c'est ce qui se vend le plus aujourd'hui en bande dessinée.
En livre, oui.
Et que les films de manga qui sortent...
Voir le salon du livre le week-end dernier, il y en avait énormément
de
mangas à vendre.
D'accord, oui. Ben oui, mais c'est... Bon, je suis passé à travers ça, j'étais trop vieux quand c'est arrivé. Il y en a plein dans la chambre de mon fils, qui pourtant maintenant est bien vieux, mais ne veut pas que je les vende. Ah, voilà, oui. Il a 35 ans, mon fils, et il y a toujours des mangas qu'il lisait quand il était... ado, et il ne veut pas que je les vende. Pourtant, ça ferait bien de la place. Et surtout, je arriverai à les vendre, cela, il n'y a pas de problème. Voilà, donc ça s'appelle Dragon Ball Super-Héros. Et maintenant, pour conclure, avant de nous annoncer les films à l'affiche la semaine prochaine, une chanson que l'on entend dans le film L'Origine du Mal, c'est Doria Tillier, et qui chante « Baby, won't you please come home, et c'est sur Radio Alpa, 107.3 FM Le Mans. Voilà, c'est parti. Doria Tillier.
Baby, won't you please come home? 'Cause your daddy's all alone. I have tried in vain, never no more to call your name. You left, you broke my heart, because I never thought we'd part. Every hour in the day you will hear me say, baby, come home.
Doria Tillier, Baby, won't you please come home, un titre que l'on entend chanté par Doria Tillier dans le film L'Origine du Mal. Alors, parlons des avant-premières. Si vous nous écoutez en direct, déjà ce soir à 19h30, Omega CGR, l'équipe du film Les Femmes du Square vient proposer le film d'avant-première avec l'actrice Aïe, je pense qu'on dit Aïe comme un œil, hein, Aïe Eidara.
Oui.
Et le réalisateur Julien Rambaldi. Donc c'est à 19h30, sinon à 19h30, non, sinon à 20h15, au Colisée, il y aura Couleur de l'incendie en avant-première. Samedi 8, c'est le nouveau jouet, cette fois-ci c'est au Méga à 20h et à 20h30 au Colisée. Dimanche, Samouraï Academy, un film d'animation à 11h au Méga et à 15h45 au Colisée. Maestro, ça c'est un film qui me paraît intéressant, c'est avec Pierre Arditi, Yvan Attal. Maestro à 16h au Méga mais à 13h30 au Colisée. Lundi, alors, L'Innocent, à 20h30 au cinéma. Si vous n'avez pas vu L'Innocent encore, c'est normal, il n'est pas encore sorti. C'est un film absolument génial. Il sort mercredi au cinéaste, il y a une avant-première à 20h30. C'est pour moi, avec Novembre, ça fait partie des 10
films
de l'année.
Peut-être au pâté aussi. Hein.
Oh, ben, ils seront pâtés, c'est sûr.
Oui.
Mais l'avant-première, là, c'est à 20h30 au cinéaste. Il y aura également l'avant-première de Tempête à 19h45 au Méga. C'est un film pour les jeunes adolescentes, férues de chevaux, de courses hippiques, des choses comme ça. Et mardi 11, Simone, le film, le biopic sur Simone Veil, à 19h45 au Méga et 20h15 au Colisée. Moi, je l'ai vu, c'est très intéressant. C'est un film qui va avoir du succès parce que hier soir, la salle 3 du pâté était presque pleine pour une avant-première de ce film. Les films à l'affiche la semaine prochaine, outre donc Simone, Le Voyage du siècle et L'Innocent, il y aura Jack Mimoun et Le Secret de Valverde. Moi, j'ai vu, c'est un bon film d'aventure, sympa, drôle et de l'aventure avec... c'est de Malik Bentala d'ailleurs, avec Malik Bentala, il était venu le présenter. Il y aura Le Petit Nicolas, qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Alors cette fois-ci, un Petit Nicolas, version dessin animé.
Oui.
Alors donc je vais peut-être aller voir ça. Et puis Samouraï Academy, donc ça c'est un dessin animé, bon ça j'irai pas le voir. Et puis sinon, il y aura Les Harkis de Philippe Faucon, présenté par les cinéastes. Alors, comme son titre l'indique, Les Harkis, ce sera un film sur la guerre d'Algérie, bien sûr. Butterfly Vision, un film proposé aux cinéastes qui est un film ukrainien. Et il devrait y avoir aussi Halloween Ends, le dernier épisode de la trilogie reboot de Halloween. Si je suis totalement désœuvré, j'irai peut-être le voir, mais bon, je suis pas gros fan. J'ai vu les premiers Halloween, c'était bien. Après, ça, c'est de la ressucée, ça m'intéresse pas vraiment, vraiment. Voilà. Donc, cette semaine, Pierre...
Ticket to Paradise. Non, je plaisante. Hein. Enfin, si vraiment vous aimez les romans à l'eau de rose, non, mais c'est novembre, hein, avant tout.
Novembre, absolument. C'est un des meilleurs films de l'année. On peut aller voir aussi L'Origine du Mal. C'était pas du tout déplaisant.
Oui.
Alors moi, Tori Lokita, je l'ai pas vu, donc je sais pas si ça vaut le coup. Enfin voilà, donc ça fait quand même deux films à voir cette semaine, plus des avant-premières que nous pouvons vous proposer. Voilà. Nous retrouverons la semaine prochaine sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans, dans Clap. En attendant, bonne semaine.
Au revoir.